Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, c'est le genre de panne qui interroge pendant des heures hier. La moitié des porteurs de bracelets électroniques étaient invisibles au GPS. Énorme bug chez Thales, le gestionnaire du système. Ce crime avait particulièrement marqué l'opinion il y a 3 ans. Le procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Le corps de la vieille dame de confession juive avait été retrouvé mutilé à son domicile. La police recherche activement le tireur qui a pris pour cible une patrouille de la BAC hier à Lyon. L'affaire se déplace sur le terrain politique, sur la question de la vidéosurveillance. Gérald Darmanin accuse le maire de Lyon qui lui répond. Après Éric Zemmour, Marine Le Pen reçue à Budapest. La candidate et le Premier ministre Viktor Orban à l'unisson contre l'immigration et contre l'Union européenne. Le plein de conseils pour les futurs et les jeunes parents, tout se joue dans les 1000 premiers jours de la vie, explique une campagne du gouvernement. Les détails à suivre. La météo, ce sera du soleil, tôt ou tard, vous précisera Marlène Duret. L'invité éco à 22h20, on parlera des records de Tesla, records de vente, records en bourse. Avec Flavien Neuvy de l'Observatoire CTLM de l'automobile, et on verra ce que vous préparent les quotidiens pour demain matin.
Europe 1.
On n'arrête pas le progrès numérique, sauf quand une panne géante déconnecte des milliers de bracelets électroniques. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Pendant des heures, la moitié des 14 000 porteurs de bracelets électroniques en France n'étaient tout simplement plus localisés. La panne a donc duré plusieurs heures, mais l'administration pénitentiaire assure qu'aucun incident n'a été recensé. Wilfried de Villers.
Au total, cette panne de grande ampleur a concerné environ 7250 personnes placées sous surveillance électronique sur l'ensemble du territoire, selon des sources au ministère de la Justice. À partir de 16h d'ici hier, les bracelets ont tout simplement cessé d'émettre leur position. 2 heures de coupure avant une reconnexion progressive vers 18h10, mais il faudra attendre 21h50 pour une remise en service totale du système de surveillance. Le dysfonctionnement a également touché la moitié des bracelets anti-rapprochement, ce dispositif censé protéger les femmes victimes de violences en tenant leur ex-conjoint à distance. La société Thales, chargée de la gestion du dispositif de surveillance, a donné l'alerte hier. Elle assure que les porteurs de bracelets n'avaient aucun moyen de savoir que ces derniers étaient hors service. Quant à l'origine de la panne, c'est une mise à jour du réseau par un sous-traitant de Thales qui aurait provoqué l'interruption du service, un problème lié à la connectivité des bracelets. À la demande d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, plusieurs responsables de la société Thales doivent être entendus prochainement par la direction de l'administration pénitentiaire.
Wilfried de Villers. Connaître la vérité après l'horreur, le procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll s'est ouvert ce mardi aux Assises de Paris. Cette dame de 85 ans, de confession juive, souffrait de la maladie de Parkinson. Son corps avait été retrouvé poignardé de 11 coups de couteau dans son petit appartement parisien. Face aux jurés et aux fils de la victime, les deux accusés continuent de s'accuser mutuellement du meurtre. Yassine Mioub connaissait Mireille Knoll depuis son enfance. Il reconnaît tout juste une petite partie des faits dont il est accusé, Gladys Laffitte.
Ah oui, face à la cour, l'accusé de 31 ans qui s'exprime clairement reconnaît l'incendie de l'appartement, mais pas le vol ni le meurtre. Mais c'est d'abord sur son parcours qu'il a longuement été interrogé. Une enfance marquée par l'alcoolisme de son père et par sa propre violence dirigée vers ses sœurs, qu'il tabasse, mais pas fort, détaille sa mère à la barre. Elle aussi est accusée. Tous deux expliquent ce passé violent par un viol qu'il subit à ses 12 ans à l'internat. Yassine Mioub s'essuie le front et remonte ses lunettes en permanence. Il est parfois tempéré par son avocat. Sans emploi et sans domicile fixe, il vit du RSA à l'époque des faits et a de gros problèmes d'alcool, dit-il. J'étais plus au bar qu'à la mosquée, j'ai dû boire plus de 1000 flasques et il n'y a pas eu tant de drames, minimise-t-il en posant son regard vers la famille de la victime. Debout dans le box, son ton devient défensif face à l'avalanche de questions du président, notamment lorsqu'il évoque son casier judiciaire rempli de condamnations pour vol, agression sexuelle ou encore pour de fausses alertes à la bombe, dont il s'était fait une spécialité. C'est fait, je ne peux pas effacer, dit-il en guise d'explication. C'est sûr, appuie le président.
Gladys Laffitte aux Assises de Paris pour Europe 1. Des policiers ont été déployés en nombre aujourd'hui dans le quartier de la Duchère à Lyon, au lendemain de coups de feu tirés contre une patrouille de la BAC. Le tireur court toujours et l'affaire prend une tournure politique. La fusillade n'a fait aucun blessé, mais Gérald Darmanin dénonce l'absence de caméras de surveillance dans ce quartier sensible, Océane Théard.
Oui, dès ce matin, pendant une conférence de presse consacrée à l'action du gouvernement en matière de sécurité, Gérald Darmanin déplore l'absence de ces caméras de surveillance dans le quartier de la Duchère. Il dit avoir envoyé aujourd'hui un coup courrier à ce propos au maire Grégory Doucet et ce n'est pas la première alerte d'après le ministre de l'Intérieur.
Ça fait 3 fois que je lui en parle en 1 an et demi, de mettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficultés. Nous appelons les maires de France et singulièrement monsieur le maire de Lyon de sortir l'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection.
En fin de matinée, Grégory Doucet contre-attaque. Le maire convoque la presse à l'hôtel de ville et l'affirme face au micro. 60 caméras en parfait état, d'après lui, sont déjà installées dans le quartier de la Duchère.
Pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on avait remarqué que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire.
Le maillage de vidéosurveillance n'est donc pas à blâmer, d'après le maire de Lyon, dans le cas de cette attaque de 3 policiers de la BAC. Sur demande du ministère de l'Intérieur, 70 policiers ont été déployés pour une opération de sécurisation. Le but, surveiller le point de deal où a eu lieu la fusillade, l'un des plus importants du quartier de la Duchère.
Océane Théard. Ne lui dites pas qu'elle marche dans les pas d'Éric Zemmour, mais un mois tout juste après celui-ci, Marine Le Pen a trouvé un accueil chaleureux en Hongrie. L'une comme l'autre apprécie le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour ses positions anti-immigration et anti-européenne. Aujourd'hui, à Budapest, la candidate RN a partagé une conférence de presse avec Viktor Orban. À 6 mois de la présidentielle, Marine Le Pen cherche à changer de stature, Alexandre Chauveau.
Oui, et le décor était symbolique. 2 drapeaux hongrois derrière Viktor Orban, 2 drapeaux français derrière Marine Le Pen. Et un détail qui n'en est pas un, l'absence de drapeau européen. La candidate du Rassemblement National a ensuite prononcé un discours d'une dizaine de minutes avec une cible principale, l'Union européenne, une organisation fédérale dirigée par un pouvoir centralisé, enivré de sa puissance, dit-elle, avant de louer la politique migratoire de Viktor Orban.
Vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
Marine Le Pen a aussi beaucoup insisté sur le caractère politique de sa rencontre pour se démarquer d'Éric Zemmour, reçu un mois plus tôt à une conférence sur la démographie et en qualité d'intellectuel. Elle veut endosser le costume de présidentiable et s'imposer comme une des figures de l'alliance conservatrice qu'elle appelle de ses voeux au sein de l'Union européenne.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Éric Zemmour, lui, n'a pas eu droit au même accueil en allant dédicacer son livre ce soir à Biarritz. Par crainte de troubles à l'ordre public, la maire, Les Républicains, lui a barré l'accès au centre-ville. Pour son meeting, le polémiste a dû se rabattre sur une salle de 1500 places près de l'aéroport, loin du centre donc. Mais les opposants d'Éric Zemmour l'attendaient à son arrivée.
Raciste, Zemmour, homophobe.
C'est la liberté, et avec un homme pareil, adieu la liberté. C'est effrayant. Il est en dehors de tout sentiment républicain.
Moi, je suis élue à la ville de Biarritz. Je trouve scandaleux que ce monsieur vienne ici répandre ses idées néfastes. Je suis là pour montrer qu'il a une opposition en face de lui. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme lui. C'est un monsieur qui a été condamné 2 fois et qui a encore d'autres procès en cours. Donc ce monsieur n'incarne en rien la République qu'il pense ou qu'il croit défendre, au contraire.
Voilà pour ses opposants à Éric Zemmour au micro de Stéphane Place. Dans la salle, face à ses soutiens, cette fois, le polémiste, toujours pas candidat, s'en est pris au rôle de l'État.
L'État a abandonné ses compétences essentielles de sa souveraineté. Il se reporte sur d'autres missions pour régir la vie des gens. L'État est à la fois désarmé et totalitaire. L'État a désormais un nouveau rôle qu'il s'est arrogé, lutter contre les injustices ou contre les prétendues injustices. Certains sont prêts à mettre un fonctionnaire dans chaque chambre à coucher pour vérifier que l'on respecte bien le principe d'égalité et la juste répartition des tâches ménagères. D'autres sont prêts à taxer le moindre véhicule à moteur pour sauver leur bonne conscience écologique. Mais ce n'est pas notre France.
Éric Zemmour avec Stéphane Place à Biarritz pour Europe 1. À chaque jour, sa visite de terrain, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Médan, dans les Yvelines, pour inaugurer un musée consacré à l'affaire Dreyfus. Dans la maison d'Émile Zola, auteur du célèbre J'accuse en soutien au capitaine Dreyfus, au nom du devoir de mémoire, eh bien c'est aux plus jeunes que le chef de l'État a souhaité s'adresser.
Alors je le dis à tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et à toutes celles et ceux qui viendront dans cette maison, dans ce musée, n'oubliez rien de ces combats passés, parce qu'ils vous le disent et vous répètent. Que le monde dans lequel nous vivons, que notre pays, comme notre République, ne sont pas des acquis. Ils sont le fruit de combats essentiels. Ils sont le résultat de vies de femmes et d'hommes sacrifiés. Dans des guerres, mais parfois dans des combats oubliés, intimes. Dans des batailles comme celles que Dreyfus et Zola ont menées. Et toutes celles et ceux qui les ont accompagnés. Notre devoir, c'est de transmettre ces combats, mais avec eux, la force d'âme qu'il faut avoir pour les mener.
Emmanuel Macron avec Jacques Serret. Deux rencontres pour apaiser les tensions à l'agenda présidentiel cette semaine. Emmanuel Macron va recevoir demain à déjeuner son homologue polonais, alors que la Pologne est en plein bras de fer avec l'Union européenne sur l'indépendance de la justice. Et puis vendredi, le chef de l'État rencontrera Joe Biden à Rome avant le sommet du G20. Washington cherchant toujours l'apaisement après la crise des sous-marins.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'est un message aux jeunes parents de la part de Santé publique France, ou plutôt une campagne de sensibilisation alors qu'arrive un heureux événement. On la verra dès le mois prochain, cette campagne, dans les médias et sur les réseaux sociaux, avec ce message, Virginie Riva, les 1000 premiers jours de la vie sont essentiels à l'éveil des bébés.
Oui, car ils sont fondamentaux pour l'enfant, son développement, une période pas toujours facile à appréhender pour les parents. 1000 jours, c'est l'addition des mois de grossesse plus les deux premières années d'un enfant. Pour les pouvoirs publics, c'est là que sont posées les bases du bien-être, de l'apprentissage, des liens affectifs, pour toute leur vie, mais aussi pour les générations d'après, et de la santé, bien sûr. Voilà pourquoi c'est un enjeu de santé publique, qu'il s'agisse d'obésité, de risques cardiovasculaires, de violences subies ou commises plus tard, d'addictions qui pourront se développer. C'est là que se creusent également les inégalités de destin selon la classe sociale de l'enfant. Voilà pourquoi un site internet et une application sont lancés pour répondre au mieux aux parents. Des parents qui vont trop souvent sur les réseaux sociaux face à la multitude de questions qu'ils se posent. Le site propose donc des réponses scientifiques sur l'alimentation, mais aussi les perturbateurs endocriniens, l'allaitement, les violences éducatives. Et dès cette semaine, les futurs parents, dès le quatrième mois de grossesse, recevront également un livret envoyé par leur CAF.
Virginie Riva. Le monde est très loin du compte dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les États devraient multiplier leurs ambitions par 7, selon l'ONU, pour espérer limiter le réchauffement à plus 1,5 degré à la surface du globe. La COP26 pour le climat s'ouvre dimanche prochain à Glasgow, mais ce sera sans Elisabeth II. À 95 ans, la reine d'Angleterre a été mise au repos forcé par ses médecins il y a près d'une semaine. On lui conseille encore de prendre du repos. Elle a dû passer une nuit à l'hôpital pour une série d'examens médicaux, alimentant ainsi les questions sur son état de santé. Pékin est à 100 jours maintenant de ses Jeux Olympiques d'hiver et le Covid menace encore et toujours. La Chine ne fait donc pas dans la dentelle. Pour une poignée de nouveaux cas d'infection, elle reconfine entièrement une ville de 4 millions d'habitants. Sébastien Lebelzik, le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
À plus de 1500 km de Pékin, la ville de Lanzhou se voit donc à nouveau barricadée. Un confinement strict avec interdiction de quitter son domicile, sauf pour acheter un peu de nourriture. Une mesure particulièrement sévère pour cette ville de 4 millions d'habitants après la découverte de 6 nouveaux cas de Covid-19 aujourd'hui. Fidèle à sa stratégie zéro Covid, la Chine sort l'artillerie lourde avec une série de mesures de confinement. À Pékin, où l'on compte déjà près de 20 nouveaux cas, plusieurs quartiers sont également bouclés dans le nord de la ville. Et c'est le retour des codes de traçage avec interdiction d'entrée dans la capitale si l'on a traversé une zone avec des cas d'infection. Pékin sous cloche à 100 jours maintenant des Jeux Olympiques d'hiver. Plusieurs événements ont été annulés, dont le marathon de Pékin prévu dimanche prochain. Des parcs d'attractions sont fermés et il faut montrer patte blanche pour accéder aux lieux publics. Cette semaine, toujours à Pékin, plusieurs centaines de milliers de personnes vont être dépistées, dont tous les élèves scolarisés dans la capitale. Alors que trois quarts des Chinois sont vaccinés, les autorités ont commencé à organiser une campagne de rappel qui concerne notamment tous les habitants de la capitale. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Les arbitres de foot font leur mea culpa. La direction technique de l'arbitrage français dressait ce matin son bilan de la saison de Ligue 1. Et vous y avez assisté, Jean-François Pérez. Les erreurs d'arbitrage, ça arrive, Jean-François, et les arbitres le reconnaissent.
Oui, et notamment autour d'un match qui a fait beaucoup jaser. PSG-Angers, il y a 10 jours. Victoire parisienne 2-1 avec deux buts très litigieux, validés par la VAR, l'arbitrage vidéo. Ce qui avait valu à Gérald Baticle, l'entraîneur angevin, cette sortie désabusée.
Ça fait très mal. Il y a beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment d'injustice.
Fait plutôt rare, par la voix de leur patron Pascal Garibian, les arbitres avaient reconnu leurs erreurs ce soir-là. Ils l'ont répété ce matin, le bilan de l'arbitrage vidéo est bon, mais il est encore loin d'être parfait, avec environ une erreur sur trois non corrigée. Stéphane Lannoy, ancien arbitre, aujourd'hui en charge de la vidéo.
On comprend la frustration, l'agacement des joueurs, des spectateurs, des téléspectateurs. On a constaté depuis le début de la saison un certain nombre de manquements clairement identifiés. Ce n'est pas une copie blanche et propre aujourd'hui, mais on continue de travailler pour faire en sorte de répondre aux attentes du foot.
Dimanche soir, pour le trait médiatique au MPSG, l'arbitrage de Benoît Bastien et de Lavar était scruté à la loupe. Mention très bien pour une direction nationale de l'arbitrage, désormais résolue à franchir une nouvelle étape historique, celle de diffuser tout ou partie des conversations des arbitres pendant les matchs.
Oui, ça sera évidemment pour la prochaine étape. Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Vous trouverez bientôt un distributeur de billets dans certains bureaux de tabac. Les tout premiers seront installés le mois prochain. Les buralistes cherchent de cette façon à diversifier leurs activités et leurs sources de revenus avec la baisse inéluctable, bien sûr, des ventes de cigarettes. Le temps pour ce mercredi. Demain, Marlène Duret, le soleil sera au rendez-vous, même s'il faudra parfois être patient. Hein.
Oui, Alexandre, le soleil brillera dès le matin dans les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On n'oublie pas l'ensemble des Alpes, une partie de la Franche-Comté et puis sur l'ouest du Massif central, en continuant vers le Limousin, la Dordogne et l'Aveyron. Partout ailleurs, la journée débute sous la grisaille avec parfois des brouillards qui peuvent être assez épais. L'après-midi, le soleil s'imposera là où le temps était gris et brumeux, sauf du côté de la Bresse, notez-le bien, du Val-de-Saône aussi ou encore de la vallée du Rhin, puisque par là-bas, la dissipation semble plus laborieuse. Et puis près de la frontière belge, les apparitions du soleil seront sans aucun doute timides. Ciel variable en Corse, on n'oublie pas la Corse, avec des nuages qui peuvent déborder sur le littoral de la Côte d'Azur. Les températures maximales plafonneront entre 10 et 12 degrés là où la grisaille sera tenace, autrement dit du côté de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, ou encore Lons-le-Saunier, dans le Jura et en Alsace évidemment. Et puis elles atteindront en général 15 à 19 degrés. Et puis ça peut monter jusqu'à 20 à 23 au sud de la Garonne ainsi que dans le sud-est du pays.
Merci Marlène, on vous retrouve à minuit sur Europe 1 pour un dernier point météo. On va marquer une pause dans un instant, ce sera Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Et puis l'invité éco, Flavien Neuvy de l'Observatoire CTLM de l'automobile. On va se pencher sur les records engrangés ces derniers jours par Tesla, la marque phénomène d'Elon Musk. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Claire Lemaître nous a rejoint pour Top à Wall Street. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui enchaîne une deuxième soirée de records historiques. Les résultats solides des entreprises américaines rassurent les investisseurs.
Oui, alors Wall Street a un petit peu perdu de son élan en fin de séance, mais c'est tout de même un nouveau plus haut historique pour le S&P 500 et pour le Dow Jones. Le Dow Jones qui gagne un tout petit 0,04%, 35 756 points. Et le Nasdaq aussi est quasi stable, plus 0,06%. 6%. Le programme était chargé aujourd'hui avec des résultats applaudis pour UPS, le géant de la livraison de colis. L'action bondit de 7%. Même chose pour General Electric, en hausse de 2%. Les investisseurs, là aussi, sont séduits. En revanche, c'est la déception pour Facebook. Le chiffre d'affaires trimestriel est inférieur aux attentes du marché. Sanction donc pour Facebook qui gagne quand même des utilisateurs malgré la polémique qui fait rage sur les pratique du réseau social. Facebook perd 4% ce soir. Et puis un mot du pétrole qui repart en hausse à New York, plus 1% pour le WTI, $84,61 le baril.
À Paris, Claire, le CAC 40 signe une belle séance. L'indice parisien qui profite notamment des nouveaux records battus à Wall Street.
Oui, c'est du vert, plus 0,81%. 6766 points, encore beaucoup de publications trimestrielles au menu aujourd'hui. Et les plus fortes hausses sont à chercher du côté des plus petites entreprises, avec par exemple Maison du Monde qui a relevé ses objectifs pour cette année. Très belle séance pour l'enseigne d'ameublement avec un titre qui flambe de près de 25%. Et puis Interparfum qui détient notamment les licences de parfums de Montblanc ou de Jimmy Choo a relevé ses prévisions de vente et de rentabilité pour cette année. Plus 10% ce soir pour Interparfum.
Enfin, du côté des entreprises du CAC 40, l'heure est plutôt à la déception aujourd'hui.
Oui, alors déception pour Orange. L'opérateur télécom a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son indicateur clé de rentabilité au troisième trimestre. Orange perd donc 1,7%. Et puis Michelin aussi recule, moins 0,9%, malgré un solide troisième trimestre. Les marchés européens sont optimistes ce soir. Francfort avance de 1%, plus 0,8% pour Londres, plus 0,6% pour Milan, plus 0,9% pour Madrid, Amsterdam gagne 0,5% et à Paris, le CAC 40 monte de 0,8%, 6766 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. C'est une marque de voiture électrique, mais alors avec un énorme turbo sous le capot. Tesla enchaîne les records. Record de vente, sa Model 3 numéro 1 en Europe, du jamais vu. Record en bourse, Tesla pèse maintenant 1000 milliards. C'est, tenez-vous bien, 100 fois le poids de Renault. L'invité éco ce soir sur Europe 1, Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Flavien Neuvy.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de l'Observatoire CTLM pour l'automobile. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de Tesla. Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez historique ce qui est en train de se passer. L'entreprise a passé hier la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation boursière aux États-Unis. Il faut savoir que seuls Apple, Microsoft, Google et Amazon valent aujourd'hui plus cher que Tesla en bourse. Et je trouve qu'il y a peut-être encore un chiffre qui parle plus, c'est que Tesla vaut aujourd'hui 12 fois plus que General Motors. Bon, accessoirement, c'est quand même encore aujourd'hui le quatrième constructeur automobile mondial, General Motors. Est-ce que c'est fou ce qui se passe autour de Tesla ou est-ce que c'est une réussite tellement spectaculaire que tout cela est bien normal ?
Écoutez, c'est quand même assez incroyable en réalité, parce que quand on refait un petit peu l'histoire de Tesla, qui est un constructeur automobile finalement qui a un peu plus de 15 ans d'âge, hein, c'est 2003, Elon Musk rentre dans Tesla en 2004. À l'époque, l'idée de créer un nouveau constructeur automobile paraissait complètement folle, puisque personne n'avait réussi à recréer un constructeur automobile parce que c'est compliqué, il faut des usines, il faut vendre les voitures, donc il faut des concessionnaires.
On est d'accord qu'au démarrage, et peut-être vous le premier, personne n'y croyait, tout le monde rigolait.
Mais personne n'y croyait, c'est-à-dire l'idée de créer un constructeur en partant de zéro, ça paraissait complètement fou, et en plus l'idée de créer un constructeur qui ne ferait que de l'électrique, à une époque où personne ne parlait d'électrique. Donc vraiment, Elon Musk avec Tesla, si vous voulez, a réussi une aventure entrepreneuriale absolument incroyable, qui en fait aujourd'hui une des plus grosses entreprises au monde en termes de capitalisation, et il a réussi au fil du temps en plus à relever les défis industriels, puisqu'il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à produire, je me souviens de ce symbole, 50 000 voitures par trimestre, c'est-à-dire 200 000 voitures par an. Aujourd'hui, il en est à 250 000 par trimestre. Il est parti pour faire les 1 million de voitures chaque année. C'est tout à fait spectaculaire.
Oui, et si on compte en plus sur le fait qu'il ne fait que de la voiture électrique, faire 1 million de voitures par an uniquement électrique, là, aujourd'hui, en 2021, personne n'avait prévu ça non plus.
Personne n'avait prévu ça. En fait, il avait anticipé un peu avant tout le monde, en réalité, l'électrification du marché, puisque, on le sait, l'Europe a fait le choix de l'électrification. À terme, on interdira la vente des voitures thermiques d'ici 2035. Et donc, lui, il avait vu que l'électrique avait un potentiel tout à fait important. Et il est parti avec une stratégie très pensée, très réfléchie, en se disant qu'il allait chercher des clients haut de gamme avec des voitures avec un design très spécifique. Il vendait plus de 100 000 dollars chaque voiture. Et donc au début, il y avait très peu de clients. Et au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, il a élargi sa base de clientèle en proposant des modèles qui sont aujourd'hui plus accessibles en termes de prix.
Et en plus, il a un avantage concurrentiel sur beaucoup des constructeurs parce qu'il maîtrise un peu plus que les autres toute la chaîne, notamment la chaîne logiciel, certains disent, et notamment, hein, j'ai lu que le patron de Volkswagen dit que c'est parce qu'il arrive à modifier ses logiciels un peu quasiment en temps réel qu'il est moins touché que les autres constructeurs par la panne des puces qui, là, touche le monde entier.
Oui, il a rien fait comme les autres, en fait, parce qu'il a voulu beaucoup internaliser. Il voulait pas dépendre, en fait. Il voulait être très peu dépendant des fournisseurs, des équipementiers. Donc, il a beaucoup internalisé, y compris l'électronique, y compris les logiciels. Et dans cette période où l'industrie automobile traverse une crise sans précédent, enfin, je veux dire, cette crise des composants électroniques, cette pénurie qui pénalise le marché automobile, hein, et tous les constructeurs au monde, eh ben, lui, finalement, il est moins impacté par ça, ce qui lui permet de livrer encore beaucoup de voitures, notamment au mois de septembre, où notamment la Model 3 a vraiment très, très bien marché.
Alors, pour autant, est-ce que les jeux sont véritablement faits pour l'avenir, Flavien Neuvy? Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire de l'automobile CTLM, parce qu'aujourd'hui, ça y est, tous les gros constructeurs sont en train de se réveiller. Volkswagen est en train de faire une mutation historique, des dizaines de milliards qui sont mis sur l'électrique. Ford aux États-Unis, ça y est, bouge aussi. Renault-Nissan, qui était parmi les précurseurs, qui s'est peut-être un petit peu endormi au milieu, est en train de repartir aussi. Enfin bon, on ne va pas tous les citer. Est-ce que tous ces constructeurs peuvent rattraper Tesla ou c'est perdu?
Non, c'est pas perdu. Alors c'est vrai que Tesla faisait sourire, voire un petit peu ricaner il y a une dizaine d'années quand l'aventure a démarré. Aujourd'hui, il ne fait plus rire personne, évidemment. Et donc la compétition va être beaucoup plus forte dans les années qui viennent sur le créneau de la voiture 100% électrique, puisque de toute façon, les constructeurs sont obligés d'y passer. Donc comme vous le dites, Ils vont investir des milliards et des milliards d'euros, donc la compétition va être vraiment rude. Simplement, il a pris un coup d'avance et le positionnement de sa marque est intéressant parce qu'il a réussi à créer une marque automobile qui se positionne différemment dans l'esprit des automobilistes. C'est vu comme un pure player, si je puis dire, de l'électrique, avec un design vraiment très spécifique qui séduit les clients. Et donc, il a quand même pris un coup d'avance. Mais pour autant, les jeux ne sont pas faits. Les grands noms, les grands constructeurs mondiaux qui, eux, font plutôt 10 millions de voitures par an, ont les moyens, évidemment financiers et technologiques, de rattraper leur retard.
Parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est sûr et certain que l'électrique sera la seule source des années à venir, puisque à un moment, on avait pensé quand même que l'hydrogène serait une source peut-être alternative ou prendrait une place importante. On a l'impression que l'hydrogène, c'est réservé pour les gros modèles, genre avion, bus, camion. Et a priori, tout le monde semble se mettre d'accord sur l'électrique pour la voiture.
Alors pour l'instant, très clairement, c'est l'option 100% électrique, voire hybride, ça c'est encore en cours de discussion, qui a été choisie par le régulateur européen, si je puis dire, par la réglementation européenne. On verra ce qui se passe sur l'hydrogène. C'est sûr que pour le moment, on voit bien que l'hydrogène est plus orienté sur les modes de transport lourds, mais il est très difficile en réalité de prédire l'avenir en matière de mobilité et de technologie, parce que les progrès vont tellement vite, les sommes investies en recherche et développement sont tellement importantes que dire aujourd'hui quelle sera la technologie qui sera la plus performante à horizon 2035, alors la plus performante sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental, franchement, c'est un pari qui est difficile à faire.
Mais c'est un pari que font par exemple les loueurs de voitures, puisque ce qui explique notamment la flambée boursière hier autour de Tesla, c'est que Hertz, hein, le géant cette fois de la location de voitures, a annoncé une commande de 100 000 voitures Tesla pour venir équiper ses parcs de voitures. Là encore, c'est un virage qu'on n'attendait pas si vite, qu'on n'attendait pas comme ça.
Oui, alors c'est une commande qui est très importante. Alors, au-delà du nombre, bien sûr, c'est qu'elle montre une chose qui est très symbolique, c'est que les loueurs automobiles, si vous voulez, dans leur modèle, ils achètent des voitures neuves aux constructeurs, mais 2 ou 3 ans après, ils les remettent sur le marché de l'occasion. Et ce qui pénalisait les voitures électriques, c'était d'estimer leur valorisation sur le marché de l'occasion à horizon 2 ans. Donc il y avait un risque financier que les loueurs n'avaient pas trop envie de prendre en réalité. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de la voiture électrique un peu partout dans le monde, ils sont prêts à franchir le pas et c'est ce que montre en fait cette commande géante, c'est qu'aujourd'hui, les loueurs, finalement, se disent que les voitures électriques d'occasion, elles auront un marché, il y aura des clients qui pourront les acheter par la suite.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Flavien Neuvy, en charge de l'Observatoire de l'Automobile CTLM. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve sur Europe 1 demain, 22h20.
Merci à vous, Emmanuel Dutheil. Autre rendez-vous, on vous retrouve également avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Votre invitée sera Brigitte Klinkert, la ministre déléguée à l'insertion.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec la une de vos quotidiens pour ce mercredi 27 octobre, Libération se penche sur la situation des hôpitaux. Situation compliquée, de l'aveu même d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, à la une de Libé. Un lit sur 5 fermé, le Covid qui repart à la hausse, des soignants qui posent leur démission. Une enquête pointe la fermeture de 20% des lits d'hôpitaux par manque de personnel. À 6 mois du vote, à 6 mois de la présidentielle, la France plus à droite que jamais, selon le Figaro. Une enquête de la Fondation pour l'innovation politique montre que les thèmes politiques habituellement associés à la droite s'imposent avec force dans l'opinion. Sécurité et immigration en tête. Reste à savoir, écrit le Figaro, à qui peut profiter cette droitisation, car en dépit d'une conjoncture favorable, aucun leader naturel ne se dégage à la tête d'un camp de la droite morcelé. La Croix fait sa une sur la question des migrants, car l'Église est en vigie, titre le quotidien catholique, alors qu'une église abrite 3 grévistes de la faim à Calais, une autre accueille des migrants maltraités à Briançon. Un médiateur envoyé par le gouvernement rencontrera justement ce mercredi à Calais les grévistes de la faim qui soutiennent la cause des migrants. À la une des Échos, on en parlait il y a un instant avec l'invité d'Emmanuel Dutheil, la mine réjouie d'Elon Musk, patron de Tesla. Tesla, c'est le triomphe boursier de la voiture électrique. Le groupe d'Elon Musk vaut, on en parlait il y a quelques minutes, donc plus de 1 000 milliards de dollars à Wall Street. En clair, sa capitalisation est supérieure à celle de tous les constructeurs traditionnels réunis. 22h30, vous êtes sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. avec ses belles lunettes. Olivier Delacroix vient d'entrer dans le studio. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
C'est votre libre antenne.
C'est ma libre antenne, ce ne sont pas mes lunettes.
Et ce ne sont pas vos lunettes, exactement.
Parce que j'ai oublié mes lunettes.
Mais je m'y habitue, hein, je finis par
m'y habituer. Oui, vous avez vu, c'est le style 70,
vous
mais
voyez
ce
bien
sont
moi,
des lunettes de femmes. Moyennement.
Vous me voyez ?
Oui, oui, très
bon,
très
ça
bien.
Ça va alors.
Oui, très bien. On se retrouve tout à l'heure, à 23h pour le flash. À tout à l'heure Alexandre.